Deuxième partie. Off-ret. 1. Hodges ressort de la cuisine avec une bière à la main, se cale dans son lazy boy et pose la canette sur la table basse à sa gauche, à côté du revolver. C'est un Smith & Wesson MP calibre 38, MP pour Military and Police. Il le caresse distraitement, comme on caresse un vieux chien, puis s'empare de la télécommande et met la 7. Il est un peu en retard. Le public est déjà en train d'applaudir. Il repense à une mode, éphémère et terrible, qui avait envahi la ville vers la fin des années 80. Peut-être que le mot qui conviendrait le mieux serait « infecté », parce que cette mode avait plutôt fait l'effet d'une fièvre passagère. Les trois journaux de la ville s'étaient emparés du sujet pendant tout un été. À présent, deux de ces journaux n'existent plus, et le troisième est en fin de vie. Dans son costard tiré à quatre épingles, le présentateur arpente la scène en saluant le public de la main. Hodges regarde cette émission quasiment tous les jours depuis qu'il est retraité des forces de police. Et selon lui, cet homme est trop intelligent pour ce boulot. Un boulot qui s'apparente plutôt à faire de la plongée sous-marine dans les égouts de la ville sans combinaison. Il trouve que c'est le genre de type qui pourrait se suicider à la grande stupeur de ses proches et de tous ses amis. C'était quelqu'un d'extrêmement gai, et comme il allait bien la dernière fois qu'il l'avait vu. À cette pensée, Hodges donne une autre caresse distraite à son arme. C'est le modèle Victory. Une vieillerie, mais une vieillerie qui a du coffre. Pendant ses années de service, son arme avait été un Glock 40. C'est lui-même qui se l'était acheté. Tous les officiers de police de la ville sont censés s'acheter leur arme de service. Et maintenant, le Glock repose dans le coffre-fort de sa chambre, en sûreté. Il l'avait déchargé et rangé là, après sa cérémonie de départ, et ne l'avait plus touché depuis. Aucun intérêt. En revanche, il affectionne particulièrement son Colt. Il a une valeur sentimentale. Mais il y a une autre raison à cela. Un revolver ne s'enraye jamais. La première invitée, une jeune femme en petite robe bleue, entre sur le plateau. Elle a l'air un tantinet idiote, mais elle a un corps de rêve. Quelque part sous cette robe, Hodges sait qu'il y a un tatouage, un de ces tatou-poufs, comme disent certains. Peut-être deux ou trois. Dans le public, les hommes sifflent et tapent des pieds. Les femmes applaudissent gentiment. Certaines lèvent les yeux au ciel. C'est le genre de nana que les maris n'ont pas intérêt à mater en présence de leur femme. La jeune femme est furieuse dès son entrée. Elle raconte au présentateur que son copain a eu un bébé avec une autre et qu'il va tout le temps les voir. Elle l'aime toujours, dit-elle, mais elle déteste cette... Les deux mots suivants sont censurés. Mais Hodges arrive à lire sur les lèvres. Putain de salope. Le public applaudit et l'encourage. Hodges prend une gorgée de bière. Il sait ce qui vient ensuite. Cette émission est aussi prévisible que le feuilleton du vendredi après-midi. Le présentateur, qui a l'air trop intelligent pour ce genre de conneries, la laisse déblatérer encore un peu, puis introduit l'autre femme. Elle aussi a un corps de rêve, plus une bonne longueur de chevelure blonde. Elle a un tatou-pouf sur la cheville. Elle s'approche de la femme en robe bleue et dit « Je comprends ce que tu ressens, mais moi aussi je l'aime. » Elle en a encore gros sur le cœur, mais c'est tout ce qu'elle arrive à dire avant que corps de rêve numéro 1 ne passe à l'attaque. Dans les coulisses, quelqu'un fait sonner une cloche, comme pour annoncer le début d'un combat de boxe. Hodges imagine que c'est tout comme, puisque tous les participants de l'émission sont sûrement rémunérés. Que ferait-il là, sinon? Les deux femmes frappent et griffent pendant quelques secondes, bientôt séparés par les deux armoires à glace avec « Sécurité » écrit sur leur t-shirt, qui observaient depuis l'arrière de la scène. Elles se hurlent des saloperies au visage pendant un petit moment, un échange de points de vue clair et détaillé, censuré pour l'essentiel, toujours sous l'œil bienveillant du présentateur. Et cette fois-ci, c'est corps de rêve numéro 2 qui passe à l'offensive, décochant un beau crochet à corps de rêve numéro 1. La cloche retentit à nouveau. Elle s'étale par terre. leurs robes leur remontant sur les cuisses, griffant, frappant, giflant. Le public devient fou. Les armoires à glace interviennent et le présentateur s'interpose, susurrant d'une voix apaisante, mais insidieuse. Les deux femmes se crachent la profondeur de leur amour au visage. Le présentateur annonce une courte page de pub, puis une actrice people vante les mérites d'une pilule minceur. Hodges reprend une gorgée de bière et sait qu'il ne boira même pas la moitié de la canette. C'est drôle, parce que quand il était flic, il était quasi-alcoolique. Et quand la boisson a détruit son mariage, il en a déduit qu'il était alcoolique. Il avait alors rassemblé toute sa volonté et s'était abstenu, se promettant de boire autant qu'il en aurait foutrement envie une fois qu'il aurait fait ses 40 ans de service. Un nombre assez conséquent quand on considère que 50% des flics prennent leur retraite au bout de 25 ans et 70% au bout de 30 ans. Sauf que maintenant qu'il est retraité, l'alcool ne l'intéresse plus vraiment. Il s'était forcé quelquefois, juste pour voir s'il était encore capable de se saouler, et il l'était. Mais il s'avérait qu'être saoul n'était pas forcément mieux qu'être sobre. En fait, c'était même pire. L'émission reprend. Le présentateur annonce qu'il a un nouvel invité, et Hodges sait exactement qui. Le public aussi le sait. Et il trépigne d'impatience. Hodges soulève le revolver de son père, regarde dans le canon et le repose sur le Direct TV. L'homme à l'origine de la rivalité qui oppose si violemment Corps de rêve numéro 1 et Corps de rêve numéro 2 fait son entrée côté jardin. Tu savais à quoi il allait ressembler avant même qu'il arrive, fier et sûr de lui. C'est ce genre de type. Le mec de la station-service ou le cariste de chez Target. Peut-être même celui qui s'est occupé, mal occupé, de ta voiture chez Speedy. Il est maigre et pâle, avec une touffe de cheveux noirs sur le sommet du front. Il porte un pantalon de chino et une incroyable cravate vert et jaune qui manque l'étrangler et fait ressortir sa pomme d'Adam proéminente. Des chaussures en daim pointues dépassent de son pantalon. Tu sais que les bonnes femmes ont des tatouages de pouf et tu sais que le type est monté comme un cheval et qu'il éjacule avec la puissance d'une locomotive et la précision d'un tireur d'élite. La vierge effarouchée qui s'assoit sur les toilettes après qu'un type comme lui s'est branlé tombe forcément enceinte. De jumeaux. Il arbore le petit sourire en coin du mec cool et décontracté. Job de rêve, arrêt maladie à vie. Bientôt la cloche va retentir et les jeunes femmes vont se sauter à la gorge à nouveau. Après ça, une fois qu'elles auront entendu assez de ces conneries, elles se regarderont, acquiesceront d'un air entendu et se jetteront sur lui. Cette fois, les types de la sécurité attendront un peu plus longtemps avant d'intervenir parce que c'est la finale que les téléspectateurs sur le plateau et à la maison ne veulent rater pour rien au monde. Les poulettes qui foutent une branlée au coq. Cette mode éphémère et terrible qui avait vu le jour vers la fin des années 80, cette infection, c'était les combats de clodo. Un petit malin en avait eu l'idée, et quand l'activité s'était révélée rentable, trois ou quatre entrepreneurs avaient sauté sur l'occasion et peaufiné le business. Le but du jeu était de trouver deux clodos et de leur filer $30 chacun pour qu'ils se bastonnent à telle heure et à tel endroit. L'endroit dont Hodges se souvenait le mieux était le parking sordide d'un strip club infesté de morpions, le Bam Balam, à l'est de la ville. Une fois que le rendez-vous était fixé, restait plus qu'à faire la pub. De bouche à oreille. L'ère toute puissante d'Internet ne pointant pas encore à l'horizon en s'étant reculé. Et faire payer $20 le spectacle. Il devait y avoir plus de 200 spectateurs à celui où Hodges et Pete Huntley avaient fait une descente. La plupart d'entre eux faisant monter les paris et s'insultant comme des putains de tarés. Il y avait des femmes aussi, certaines en tenue de soirée et couvertes de bijoux, qui jouissaient de voir ces deux poivreaux de clodo se battre et se débattre, frapper, tomber, se relever et gueuler des incohérences. La foule rigolait, vociférait, encourageait les deux concurrents. Cette émission, c'est la même chose. sauf qu'il y a des pilules minceurs et des compagnies d'assurance derrière pour dédramatiser le principe. Ce qui fait dire à Hodges que les concurrents, car c'est bien ce qu'ils sont, même si le présentateur parle d'invités, repartent avec un peu plus de $30 et une bouteille de Night Train en poche. Et qu'il y a zéro flic prêt à faire une descente, car c'est tout aussi légal que la loterie nationale. Quand le pugilat sera terminé, une féroce juge aux affaires familiales, drapée dans son habit de vertu impatientée, expédiera en public les demandes de divorce des médiocres avec une rage à peine dissimulée pour leur mesquinerie et leur stupidité. Puis viendra le tour du gros psychologue des familles qui fait pleurer ses invités, leur fait franchir le mur du déni, comme il dit, et invite quiconque ose remettre en question ses méthodes à quitter le plateau. Hodges pense que le gros psy doit s'inspirer de vieilles vidéos d'entraînement du KGB. Hodges carbure à cette merde télévisuelle haute en couleur tous les jours de la semaine, assis dans son lazy boy avec l'arme de son père, celle que papa portait pendant ses patrouilles, posée sur la table basse à côté de lui. Il la ramasse toujours à plusieurs reprises pour regarder dans l'orifice du canon, examiner ce tunnel obscur. Deux ou trois fois, il l'a glissée dans sa bouche, juste pour voir quelle sensation ça fait d'avoir un revolver chargé posé sur la langue et pointé vers le palais. S'y habituer, il imagine. Si j'arrivais à boire, je pourrais penser à autre chose, se dit-il, au moins pendant un an. Et si j'arrivais à penser à autre chose pendant 2 ans, l'envie me passerait peut-être. Je pourrais me mettre au jardinage, ou à l'ornithologie, ou même à la peinture. Tim Quigley avait fait de la peinture en Floride, dans un lotissement de flics retraités. D'après ce que les gens disaient, il s'était vraiment passionné pour la chose, et avait même vendu quelques toiles au Venice Art Festival, jusqu'à ce qu'il fasse une crise cardiaque. Après sa crise cardiaque, il était resté alité pendant 8 ou 9 mois, paralysé de tout le côté droit. Plus de peinture pour Tim Quigley. Puis, plus de Tim Quigley. Prends-toi ça. La cloche retentit, et sans surprise, les deux demoiselles se jettent sur le maigrelet à la cravate improbable. Des ongles colorés fusent, et des chevelures tout aussi colorées volent. Hodges tend une main vers le revolver. Il a à peine le temps de l'effleurer, qu'il entend la fente de la boîte aux lettres grincer et le courrier choir sur le sol de l'entrée. De nos jours, avec les mails et Facebook, plus aucun courrier de grande importance n'arrive par la poste. Mais il se lève quand même. Il va s'occuper de son courrier et laisser le spécial police de son père pour une autre fois.